Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un médecin et un enfant ont été tués hier lors de nouvelles manifestations au Soudan. Elles ont fait entre 25 et 40 morts en un mois. Une partie de la population se mobilise contre les hausses des prix et le président Omar el-Béchir. Cela pourrait durer, vous le comprendrez.
Eux se mobilisent contre une réforme du travail qu'ils jugent esclavagiste. Les syndicats hongrois s'opposent à Viktor Orban. Reportage dans une usine Mercedes au sud de Budapest à suivre.
Dans cette édition encore, nous irons dans le Lot où est attendu Emmanuel Macron aujourd'hui. Il poursuit le grand débat national en écoutant les maires des communes rurales. Nous en avons longuement rencontré un, vous l'entendrez.
Les flashballs utilisés par la police lors de manifestations sont remis en cause par le défenseur des droits Jacques Toubon. Son explication et la réponse des CRS dans ce journal.
Et puis dans un gros quart d'heure, Frédéric Seitz évoquera lors de son billet politique le grain de sable Benalla. Il est plein de poussière et de frustration. Un vent de contestation balaie le Soudan en ce moment. Les manifestants, depuis un mois, protestent contre le régime du président Omar el-Béchir et contre la hausse des prix dans le pays. Celui qui tient le pays depuis son coup d'État il y a 30 ans a décidé de tripler le prix du pain à la mi-décembre. Depuis donc, les rassemblements s'enchaînent un peu partout. Hier encore, la police soudanaise a dispersé à coups de gaz lacrymogène des manifestants qui marchaient vers le palais présidentiel. Bilan: deux morts, un médecin et un enfant, près de 40 morts au total en un mois. Cela fera-t-il flancher le président soudanais Olivier Poujade ?
Omar el-Béchir n'a jamais envisagé autre chose que la répression pour répondre aux différentes vagues de contestation ces dernières années. 2013, 2016, 2017, à chaque fois la sécurité soudanaise a violemment balayé les populations. Aucun changement dans la méthode pour disperser les manifestants depuis un mois. Tir à balles réelles, entre 24 et 40 morts selon les observateurs. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme se dit préoccupé par cet usage excessif de la force. Mais contrairement aux années précédentes, le mouvement ne faiblit pas. D'après Clément Dehé, spécialiste du Soudan et anthropologue à l'Université de Paris 8, même si près d'un millier de manifestants sont aujourd'hui en prison, c'est l'appareil sécuritaire d'Omar el-Béchir qui montre des signes d'essoufflement.
La torture est toujours un élément de base de la répression dans les prisons, donc on peut être quasiment sûr que la plupart des manifestants qui ont été arrêtés donc, ont été soumis à toutes sortes de sévices. Par contre, les services de sécurité sont complètement dépassés. Il y a des rapports du terrain qui montrent que les informateurs locaux dans les quartiers, les gens qui travaillent localement dans les quartiers pour les services de sécurité ne font plus leur travail car ils ne sont plus payés. Et donc les services de sécurité aujourd'hui n'ont plus les moyens financiers mais aussi humains de réprimer cette contestation.
Au Soudan, la crise économique touche désormais le cœur du système et Omar el-Béchir se retrouve dans une situation inédite après 30 ans de pouvoir. La fronde a jailli cette fois-ci d'une région plutôt aisée et plutôt favorable jusqu'ici à son régime.
Et c'est en effet l'association des professionnels avec médecins, professeurs et ingénieurs qui s'affiche comme porte-drapeau de ces manifestations au Soudan. En République démocratique du Congo, ce serait au moins 890 personnes qui ont été tuées le mois dernier, chiffre donné par l'ONU. Des morts lors d'affrontements interethniques dans le centre du pays. Le gouverneur de la région proche du président Kabila est accusé d'avoir instrumentalisé le conflit et d'avoir armé certains villageois à quelques jours des élections. À propos de l'élection présidentielle, par ailleurs, l'Union africaine demande la suspension de la proclamation définitive des résultats. Ils doivent normalement être donnés ce vendredi. Là aussi, le pouvoir réprime, fait des morts et fait des exilés. Au Nicaragua, les rassemblements de l'opposition sont désormais illégaux. Hier, une poignée de jeunes a tenté de braver l'interdiction, se faisant rapidement disperser par la police. D'autres, par dépit, souvent, ont fui le Nicaragua. Accusés de terrorisme par le président Daniel Ortega, ils sont 23 000 à avoir déposé une demande d'asile au Costa Rica, pays voisin. C'était l'année dernière. Alvaro Gomez, notamment, un professeur de mathématiques et de physique que Maïwenn Bordron a rencontré pour nous. Il s'est exilé au Costa Rica. Il raconte.
J'ai perdu mon fils. Ils l'ont assassiné le matin du 21 avril. Il a été tué d'une balle dans la poitrine. On ne sait pas exactement d'où venait la balle, mais il a été tué dans le centre de Masaya. Moi, j'ai quitté le pays parce que j'ai toujours élevé ma voix contre le gouvernement. Dans les journaux, dans la presse, à la télévision, à la radio. J'ai élevé ma voix contre le régime en disant que les véritables assassins, c'était la famille Ortega Murillo. Bien sûr, le gouvernement n'allait pas me dire « nous allons t'attraper ». Le gouvernement ne dit pas ces choses-là, mais le fait. Depuis l'exil, ce que nous faisons, c'est dénoncer le gouvernement pour que le monde le sache. Nous, ce que nous voulons, c'est quelque chose de pacifique. Nous cherchons comment rentrer au Nicaragua quand il sera libéré des assassins. Alors ici, depuis l'exil, nous nous organisons civiquement pour lutter contre le régime. C'est pour cette raison que nous nous organisons, pour être prêts à n'importe quel moment à commencer une lutte civique au Nicaragua.
Et dans le pays, depuis le printemps dernier, 300 à 500 personnes ont été tuées. Pour plus de témoignages, pour plus d'analyses, surtout ne loupez pas le grand reportage diffusé ce soir sur France Culture. Il est réalisé par Maïwenn Bordron et Annie Bro. Il sera suivi d'un débat du Nicaragua au Costa Rica, l'exil face à la répression. C'est déjà un article avec photos et témoignages sur franceculture.fr. L'attentat contre l'école de police de Bogota a fait hier au moins 21 morts, 68 blessés. Voici le dernier bilan donné ce matin par les autorités. Elles soupçonnent l'armée de libération nationale en Colombie, une petite guérilla marxiste encore active. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Paralysie budgétaire oblige, Donald Trump annule le déplacement de toute la délégation américaine au forum de Davos, prévu la semaine prochaine, un forum économique mondial. Donald Trump interdit également à Nancy Pelosi, démocrate, présidente de la Chambre des représentants, il lui interdit d'aller comme c'était organisé en Afghanistan. Le shutdown entre dans son 29e jour aux États-Unis. Eux veulent bloquer volontairement leur pays le temps d'une journée, ce samedi. En Hongrie, les syndicats dénoncent toujours la réforme du travail du président conservateur Viktor Orban. Elle permet à l'employeur de réclamer à un salarié jusqu'à 400 heures supplémentaires par an. Les opposants à cette réforme estiment qu'elle est dictée par l'industrie automobile allemande qui profite du faible coût de la main-d'œuvre hongroise. Louise Baudet s'est rendue dans une usine à une centaine de kilomètres au sud de Budapest.
Là, la route sur laquelle on est, c'est déjà le territoire privé de Mercedes.
L'usine Mercedes de Kecskemét, comme une ville à part entière au milieu des champs. Ici, il n'y avait rien il y a 10 ans.
Des champs de maïs.
Les 4500 salariés viennent d'être massivement augmentés, plus 20% cette année. Et pourtant, Michi, contrôleur qualité, pense lui aussi à partir à l'étranger.
Pourtant, je suis quelqu'un qui est très attaché à sa patrie. J'aime mon pays, mais je commence à y penser, hein, sérieusement.
Partir en Autriche ou au Royaume-Uni pour de meilleurs salaires et moins d'heures supplémentaires, 350 000 Hongrois ont déjà fait ce choix et cela va s'amplifier avec la nouvelle loi. István Slavik, délégué syndical chez Mercedes, est un ancien électeur du Fidesz. Déçu par Viktor Orban et ses promesses trahies, il ne sert plus du tout les intérêts du peuple, dit-il. Et avec cette loi esclavagiste, il s'est couché devant le capital allemand. C'est vraiment une honte. L'industrie automobile allemande a-t-elle vraiment réclamé la fameuse loi? Deux ministres l'ont dit, au rebours de la promesse d'Orban de protéger la main-d'œuvre hongroise. Zoltán Kovács, incontournable porte-parole du gouvernement, récuse pourtant toute volte-face. Il n'y a pas de contradiction, car la meilleure manière de protéger les droits des travailleurs, c'est de créer des emplois. On en a créé plus de 800 000 en 8 ans. Les manifestations en décembre et début janvier, c'est simple, elles sont politisées. D'ailleurs, George Soros est derrière tout cela. Le milliardaire américain d'origine hongroise, presque autant détesté que l'ennemi absolu, le migrant. Orban a atteint un objectif très important avec ses campagnes de haine, explique Laszlo Kordás, président de la Confédération des syndicats hongrois. Il a vraiment nourri la peur de l'étranger et ça submerge maintenant toute pensée rationnelle. À Kecskemét comme ailleurs, les médias relaient la propagande d'État.
0% de chance que la radio lise nos revendications.
Et c'est pour cela que les syndicats appellent à manifester en province, cette fois sous les yeux des Hongrois, à défaut d'apparaître dans les médias.
Louise Baudet, notre envoyée spéciale en Hongrie, à la veille d'une journée de manifestation et de grève générale.
8h09, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal dans les matins de France Culture, le grand débat national, acte 2 pour Emmanuel Macron ce vendredi.
Le président de la République se rend aujourd'hui à Souillac, commune paisible du Lot qui tente de renaître loin des grandes villes. Face cette fois à 600 maires d'Occitanie, le président va écouter là encore leur remontée de terrain. Et parmi les élus, Philippe Kessey qui sera présent, un maire sans étiquette du village de la Bastide du Vert, qu'a rencontré avant ce débat Rosalie Lafarge.
Nichée dans la vallée du Vert, au cœur des vignobles de Cahors, la Bastide abrite 270 habitants et leur maire, Philippe Canseil, compte bien rappeler au président qu'ils existent.
Nous, dans nos petites communes, c'est au quotidien qu'on dialogue avec les habitants, qu'on est en contact avec eux. C'est une notion qui a manqué au président depuis un an et demi. Il a donné l'impression de prendre des décisions technocratiques, pas forcément en lien avec les besoins des habitants.
Et pour cet élu, il est temps que le président entende ses besoins.
Qu'il entende que la ruralité existe. Aujourd'hui, on vient dans le département du Lot de Paris en voiture. Parce qu'en train, c'est quasiment impossible. Parce qu'en avion, on atterrit extrêmement loin, donc il faut reprendre la voiture. Pourquoi on en est là? Tout simplement parce que certains territoires ruraux n'ont pas été...
On les a oubliés, ces territoires ruraux, pour Philippe Canseil. Les métropoles ont concentré tous les investissements au détriment des petits villages.
Alors, les petites communes comme les nôtres, eh bien, les conseils municipaux travaillent bénévolement, font le petit boulot, réparent tout ce qui est en panne, et puis on vit comme ça.
Or, on aurait besoin dans ces villages de petits projets pour devenir attractifs. À la Bastide du Vert, par exemple, on aimerait bien être soutenu pour rénover des logements proches de la ruine.
Si l'État nous donnait cette capacité de pouvoir investir dans ces logements, de les proposer ensuite à des jeunes couples avec des enfants, nos villages auraient des enfants dans les écoles ne seraient plus promises à une fermeture proche, et on vivrait parfaitement heureux.
Sauf qu'on en est loin pour Philippe Canseil, et quand il lit dans la lettre de cadrage du président une question sur la suppression de certains services publics, il manque de s'étrangler.
Je trouve cela très malsain de dire « qu'est-ce que je dois fermer comme services publics qui pourront plus tard vous aider pour que vous puissiez vivre ?» C'est pas le bon choix.
Ce maire attend des actes forts et concrets de la part du président, seule façon, semble-t-il dire, pour qu'Emmanuel Macron sorte du Lot un peu moins impopulaire qu'en y arrivant.
Et l'échange devrait commencer à 15h cet après-midi. Ce grand débat par ailleurs a ça y est ses 5 garants, 5 nouveaux organisateurs. Matignon a choisi l'ancien patron de la RATP et de la Poste Jean-Paul Bailly, ainsi que l'actuelle présidente de la Commission nationale de l'information et des libertés, la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin. Le politologue Pascal Perrineau a lui été désigné par le Sénat, quand l'Assemblée nationale a choisi Guy Canivet, ancien membre du Conseil constitutionnel. Enfin, le président du CESE, le Conseil économique social et environnemental, a désigné de son côté Nadia Belaoui, secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement. Voilà donc pour la traduction non violente de la réponse aux gilets jaunes, car dans les rues ces dernières semaines, nombreux ont été les manifestants à être grièvement blessés à l'œil, à la mâchoire, au crâne, à cause bien souvent de tirs de LBD, les lanceurs de balles de défense, utilisés par la police nationale. Il s'agit d'une arme d'épaule qui projette des balles de caoutchouc de 40 mm de diamètre. Le défenseur des droits a reçu 25 réclamations ces dernières semaines. Il demande déjà la suspension du recours au LBD. Jacques Toubon appelle le gouvernement à prévenir plutôt que soigner. Il s'en explique au micro d'Audrey Dumain.
Les conditions dans lesquelles sont utilisées ces armes de force intermédiaire pendant les manifestations créent incontestablement un risque disproportionné, c'est le mot, pour les personnes qui manifestent ou pour celles qui sont autour des personnes qui manifestent. En ce qui concerne le lanceur de balles de défense, il faut aujourd'hui reconsidérer son usage, voir comment on l'emploie. Je crois que la prudence devant les dommages que l'on constate serait de faire pour l'instant un moratoire.
Une force disproportionnée, peut-être, lui répond Thomas Toussaint, délégué national CRS du syndicat UNSA Police. Mais lui veut surtout rappeler que les forces de l'ordre sont trop peu nombreuses pour être efficaces et non violentes.
Depuis 2008, les CRS ont perdu 15% de leurs effectifs. Et du coup, on est allé les week-ends derniers récupérer des fonctionnaires dans des services d'investigation qui ne sont pas du tout formés au maintien de l'ordre. Et on leur a demandé d'aller tenir des rues et de faire du maintien de l'ordre dans diverses villes de province, ce qui est forcément pas concevable. Ça ne veut pas pour autant dire que ces fonctionnaires-là auraient mal agi sur la voie publique, mais toutefois, ils se mettent en danger parce qu'ils sont pas aussi bien équipés que les compagnies d'intervention et puis les CRS. Donc ce qui nous pose pour nous un réel problème.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Alexandre Benalla est toujours en garde à vue ce matin. L'ancien collaborateur de l'Élysée est entendu dans le cadre de l'enquête sur l'usage de ses passeports diplomatiques. En bref, encore, la femme de l'ancien patron d'Interpol demande l'asile politique en France. Meng Hongwei est emprisonnée en Chine depuis septembre dernier, officiellement pour des raisons de corruption. Et depuis donc, son épouse, qui vit toujours à Lyon, se dit en danger et menacée. L'audience se reprend ce vendredi à Bruxelles dans le procès de Mehdi Nemmouche, ce Français accusé du quadruple meurtre au musée juif de Bruxelles en Belgique. C'était en mai 2014. Près de 5 ans après, ce musée veut montrer qu'il est un lieu de dialogue et de culture. C'est une visite signée ce matin Antoine Marette.
À l'entrée du bâtiment, il y a désormais cette plaque en cuivre qui rend hommage aux 4 victimes de l'attentat du 24 mai 2014. Pour le président du musée juif de Belgique, Philippe Blondin, le terroriste a visé le judaïsme, mais aussi et avant tout peut-être le musée.
Un musée, c'est un endroit de culture, c'est un endroit d'intelligence. Il n'y a pas de doute que pour Daesh, la culture, l'intelligence, c'est quelque chose qui est insupportable.
Désormais, pour entrer dans le musée juif de Belgique, il faut passer par un sas sécurisé. Mais le musée reste un lieu ouvert au plus grand nombre. Sa mission a évolué depuis 2014.
Nous avons jeté des passerelles vers les autres cultures qui nous entourent et certainement, bien sûr, toute cette communauté marocaine qui vit ici à Bruxelles et en Belgique. Dans cet esprit, nous avons créé toute une série d'activités qui nous permettait de montrer que, finalement, nous avons bien de points communs. Et c'est donc deux cultures en partage.
Le dialogue comme réponse au choc des civilisations encouragé par le terrorisme. Le musée juif de Belgique propose de faire découvrir au plus grand nombre les cultures juives dans ce qu'elles ont d'universel.
Et pour la première fois depuis le début de son procès, l'auteur présumé de l'attentat sera confronté aujourd'hui aux proches des victimes dont les noms seront donc enfin évoqués. Après des grisailles matinales souvent givrantes, le ciel restera bien nuageux dans l'ensemble en France ce vendredi avec quelques gouttes près de l'Atlantique. Il ne fera pas plus de 1 degré en région parisienne ce matin et sur le Grand Est, comptez 2 à Nantes et Lyon, 8 à Perpignan, 10 degrés à Bastia.